de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle a été choisie comme 6 stars par Alexandre Tisserand, le CEO de Kineis. Elle se définit comme activiste et entrepreneur. Auteur de « On ne n'est pas engagé, on le devient », fondatrice de Stop Harcèlement de rue, cofondatrice de l'ONG Singa, et après 9 ans en tant que CEO de cette ONG, elle vient de passer les rênes à Benoît Hamon. Elle est mon invitée d'aujourd'hui. Elle, c'est Alice Barbe. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alors Alice, on a un petit rituel chez 40 nuances de Sista, c'est de pitcher ce qu'est Singa. Ça te va ?
Ça va. Alors, en fait, ça fait 9 ans que je pitch Singa avec les codes. Donc, j'ai décidé de casser les codes là aujourd'hui.
Tu as bien raison.
Parce que je n'y travaille plus. Tu sais, l'elevator pitch et tout ce qu'on t'apprend au début quand tu es entrepreneur. Pour moi, Singa, c'est avant tout un mouvement dans lequel on peut se rencontrer. C'est un mouvement dans lequel on peut créer des innovations. C'est une organisation qu'on appelle ONG, mais surtout, c'est plein de gens. On est près de 50 000 personnes en France, en Europe et aussi au Québec, qui créent du lien entre nouveaux arrivants et locaux. Nouveaux arrivants, ça veut dire des personnes réfugiées, migrantes, demandeuses d'asile. Il y a plein de hashtags qui parfois sont très misérabilistes ou créant des divisions. Et des locaux, bah, ça peut être des Français, des Allemands, des personnes qui considèrent que voilà, elles sont dans leur pays qu'elles vivent dans le pays qui correspond à leur culture. Et le fait de réunir tout le monde ensemble, ça crée des communautés, mais ça crée aussi des innovations. Et en fait, on est le plus gros réseau d'incubateurs en Europe sur la migration et l'innovation, parce que quand les gens se rencontrent, ils ont des idées et nous, on est là pour accompagner ces idées. Donc aujourd'hui, on accompagne des entrepreneurs, à la fois migrants et réfugiés, mais aussi des locaux, qui peuvent créer des applications d'intelligence artificielle ou des restaurants ou des médias ou des ONG, des assos, à partir du moment où c'est autour de la migration. Pourquoi on fait ça ? Parce que le narratif autour de la migration est souvent très polarisant, soit sécuritaire, soit humanitaire. On va voir les personnes réfugiées migrantes soit comme des victimes ou comme des envahisseurs dans la bouche de certains politiques. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un autre narratif où la migration est naturelle, est une source d'innovation, n'est ni une punition, ni on n'est pas non plus dans l'angélisme, hashtag refugee welcome. C'est aussi qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à l'heure où, avec la crise climatique, on s'attend à avoir près de 300 millions de réfugiés à cause du climat. Ça va arriver, les personnes bougent, les humains sont nés avec des pieds pour marcher. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on utilise la migration comme une source de solution aussi par rapport aux grands défis de l'humanité.
Et de talent ?
De solutions, de talent, de potentiel, de joie, de beauté, parce qu'à partir du moment où on crée les bonnes conditions, tout le monde peut se révéler. Et aujourd'hui, y a probablement plein de Marie Curie qui dorment sous les tentes de la chapelle et qui ne demandent qu'à être révélées.
Tu as des exemples, justement, de jolies success stories suite à Singa ?
Plusieurs centaines, oui. Moi, je pense par exemple à Carbon Mobile, qui est une marque de téléphone allemande, qui a été lancée par un monsieur qui est syrien et en fait qui a dû quitter la Syrie et est arrivé en Allemagne. Et en fait, il a fait tout le parcours migratoire à pied et s'est aperçu que son téléphone ne pouvait pas résister ni aux fortes chaleurs, ni à des conditions difficiles, notamment quand il s'agissait de traverser la mer, mais aussi que la batterie ne tenait pas du tout. Et du coup, arrivé en Allemagne, il a monté un business, il a décidé de créer Carbon Mobile, qui est un téléphone en carbone, technologie de l'espace, qui ne meurt jamais et qui marche super bien. Il y en a d'autres, évidemment, et plus proches de nous, peut-être. Je pense à Yazan, qui est également syrien, qui a lancé Infinity, qui est une application de trading. parce que lui, il s'est aperçu que, en fait, l'argent, ça avait de l'importance avec son parcours de vie et qu'il voulait aussi entrer dans un monde, le trading, qui est souvent aussi corrompu et qui arnaque et profite de la vulnérabilité des personnes. Donc, ouais. Il veut offrir un service 100% sûr et 100% fiable. Mais ça peut être aussi Roux, qui est iranien, qui est journaliste et qui a monté un média qui s'appelle Les Lettres Persanes pour informer sur l'Iran en français. On a très, très peu d'informations fiables sur l'Iran et surtout avec les crises géopolitiques successives, c'est compliqué de passer au-delà des stéréotypes ou des mauvaises informations ou des désinformations sur ce pays. Et plus tard, il a monté une plateforme d'intelligence artificielle qui détecte les signaux faibles dans la presse au Proche et au Moyen-Orient, ce qui peut être très utile pour des entreprises qui ont des intérêts évidemment stratégiques dans ces régions-là.
Et alors aujourd'hui, tu nous disais qu'il y avait plus de 50 000 personnes dans ce mouvement. Au tout début, comment on fait pour se faire connaître justement des réfugiés ?
En fait, au tout début, on était trois, Guillaume Capel, Nathanaël Moll et moi, et on avait chacun une expérience internationale. Moi, j'avais 25 ans, je sortais de l'ONU. Et j'étais assez révoltée contre le système onusien parce que je voyais bien que les décisions se prenaient un peu derrière les rideaux, dans des hautes sphères. Ce qui me révoltait, c'est qu'on ne prenait pas du tout en compte la vie des personnes concernées. Et souvent, elles étaient juste des bénéficiaires ou des chiffres ou des victimes. Et on leur posait pas la question de ce qu'elles voulaient faire.
Ça, c'était très théorique.
Oui, mais ascendant, voire raciste, en fait, tout simplement. Tu es un chiffre, un numéro, une victime, quelqu'un qui a besoin d'aide. À partir du moment où on te met dans cette case, comment t'en sortir ? Et du coup, on a très vite demandé aux personnes migrantes et réfugiées à Paris, de quoi avez-vous besoin ? Et au départ, c'était difficile d'établir le lien de confiance. Ouais. Donc, on a lancé du mentorat. Et des cours de français en one-to-one. Donc, on allait voir des étudiants dans des grandes écoles qui faisaient du mentorat pour que les personnes nouveaux arrivants puissent apprendre le français. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Les nouveaux arrivants, ils nous disaient, moi, tu sais, le futur, le passé composé, être et avoir, tout ça, j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'on essaye de m'expliquer ça depuis toujours, mais j'ai compris en fait comment ça marchait. Sauf que si j'ai personne avec qui parler la langue, ça marchera pas. Et mon conseiller Pôle emploi me propose des jobs de mise en rayon alors que je suis expert comptable, alors que j'ai une expérience dans mon pays d'accueil, mais tout ça n'est pas pris en compte. Alors tu vois, Alice, être et avoir, en fait, plutôt mourir que de continuer à faire des cours de français parce qu'on m'explique toute la journée que je n'ai pas d'avenir et que je ne suis personne. Et à partir de là, tout a changé. Parce qu'on s'est dit, c'est ça. Et du coup, on était trois, puis on était 30 très vite, parce que les nouveaux arrivants qu'on rencontrait devenaient nos amis et on commençait à faire la fête. Et ça marchait. On commençait à organiser des événements de danse, de théâtre, des pique-niques, du sport. Et là, les gens ont adoré, autant les nouveaux arrivants que les locaux, parce que ça se faisait dans la joie. On était une grande bande de potes.
C'était la vraie vie aussi.
Ouais, et puis c'était juste se parler, se poser des questions. Pourquoi, je me souviendrai toujours de Fatou qui me dit pourquoi les gens ils manifestent dans la rue avec des drapeaux bleus et des drapeaux roses. On est en 2012, 2013, c'est l'époque du mariage pour tous et des anti-mariage pour tous. Et du coup, générer ces conversations qui sont des conversations que deux personnes peuvent avoir sur des sujets communs et confronter leurs avis, ça a créé un lien de confiance. Et à partir de là, on était 3000 en fait, on était plus 30 très très rapidement. Ça a généré. Un vrai goût, une vraie envie de pouvoir se dire on vient à Singa et on va faire ce qu'on aime faire. Et on ne va pas nous mettre dans des cases, on ne va pas nous poser de questions. Et quand je dis que Singa, c'est 50 000 personnes, ce n'est pas 50 000 nouveaux arrivants, en fait. C'est près de 90% qui sont des locaux. Mm-hmm. Parce que ce côté mouvement citoyen, en fait, moi, je crois qu'il y a toute une génération qui attend que ça, en fait, de pouvoir se dire à quel moment mon engagement, c'est aussi être moi-même et créer une rencontre sur un pied d'égalité. Moi, je pense qu'à l'époque, moi, en tout cas, je connaissais beaucoup de gens, mais c'était mes clones. Des filles comme moi qui avaient fait des études et qui voulaient travailler dans les relations internationales et qui avaient une fibre assez forte, sociale, environnementale, en tout cas d'engagement. Et j'ai pris une énorme claque parce que je rencontrais des personnes qui s'étaient battues pour leurs idées, qui avaient fait de la prison pour la liberté, qui avaient été jusqu'à être torturées en fait, pour leurs convictions. Et là, je me suis dit, mais ces rencontres-là, elles me changent, elles m'améliorent, elles me rendent meilleure. Et en fait, il faut absolument qu'on crée des trucs ensemble. Et c'est comme ça que, pour moi, en tout cas, l'aventure Singa a commencé. C'est par le fait de me prendre une grosse claque et d'écouter, d'apprendre aussi la posture de l'humilité, mmh. et pas avoir des stéréotypes sur ce dont les nouveaux arrivants, les migrants, vont avoir besoin. Ah, ben, on va vous faire un cours de français.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler justement dans les grandes organisations pour après être sur le terrain ? T'en as retiré quoi ?
Des grandes organisations ? Ouais. Bah, j'ai appris à faire des PowerPoints, c'était super.
Et des belles présentations.
Ouais, et puis non, y a, évidemment, il y a tout un tas de codes qu'on apprend sur un peu, le pouvoir en fait. Et je ne sais pas si ça m'a apporté ça, mais en tout cas, ça m'a mise en colère.
Ouais.
De voir que la Convention de Genève, c'est un texte qui a été écrit en 1951 en plein contexte de guerre froide par 5 pays qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, et m'apercevoir qu'en fait c'est complètement dépassé. Par exemple, aujourd'hui le terme réfugié climatique n'est pas reconnu à échelle internationale, et me dire mais en fait c'est ce système aussi qu'il va falloir urgemment remettre en question, et il va falloir se faire entendre. Et ce sont peut-être des techniques que j'ai apprises sur le terrain ensuite. C'est la mobilisation citoyenne gagne. La force citoyenne est incroyable et je pense peut ne pas connaître de limites. Et c'est à ça qu'il faut se dédier pour changer les cases d'un système qui aujourd'hui est injuste. Je pense évidemment aux critères des Nations Unies qui mettent les gens dans des cases, mais je pense également aux institutions et aux États en charge de faire appliquer ces systèmes qui parfois, souvent, discriminent, isolent, parfois tuent des personnes juste parce qu'elles ont eu le malheur de naître au mauvais endroit ou au mauvais moment.
Vous avez un message.
Alexandre Tisserand, CEO de Kineis, a une question pour sa sista.
Comment est-ce qu'on combine un objectif aussi social, j'ai envie de dire, avec peut-être des impératifs business qui vont venir la rattraper un beau matin ?
On a eu beaucoup de chance parce que dès le départ, on a été repéré par des acteurs du monde du social business, par Ashoka notamment.
Oui.
Mais je pense aussi à La Ruche qui nous a très très vite incubés. Et merci à La Ruche parce qu'on a tout de suite baigné dans un écosystème très ESS, à un moment où d'ailleurs la loi Hamon sortait pour mettre un cadre pour l'économie sociale et solidaire. Et moi, à ce moment-là, j'ai 25-26 ans, on monte un truc, mais on se paye pas, on n'est pas salarié. Je suis pseudo-directrice d'une équipe de bénévoles, en fait. Et on nous dit, il faut faire des business plans. Moi, j'ai jamais fait un business plan de ma vie, et on m'appelle entrepreneur. J'aurais jamais cru me considérer comme entrepreneur. Et on a eu beaucoup de chance de baigner tout de suite dans cet écosystème parce qu'on a été très, très vite formés à comment on monte une organisation. On savait dès le départ que Singa, ça allait devenir quelque chose d'énorme. On savait, et encore aujourd'hui, ce n'est pas aussi énorme que ce que ça doit devenir, mais on savait qu'on voulait mettre un gros coup de pied dans le système et dans la fourmilière et qu'il fallait que ça marche. Qu'on ne se contenterait pas d'avoir des manifs et d'aller gueuler contre Marine Le Pen ou Darmanin. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Darmanin. Mais qu'il fallait créer des outils pour qu'il n'y ait pas de Marine Le Pen et qu'il n'y ait pas de Darmanin. Et récemment, mon associé m'a dit, Guillaume m'a dit, si les banques continuent de refuser d'ouvrir des comptes aux réfugiés, bah, on n'a qu'à ouvrir une banque. Et du coup, il se lance sur la création d'un fonds d'investissement en Europe pour financer les entrepreneurs autour de la migration. Donc, je crois qu'avoir cet écosystème-là dès le départ pour comprendre un certain nombre de codes et jouer au caméléon aussi, d'une certaine manière, ça nous a énormément aidés. Après, moi, je reviens aussi de ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut avoir un PhD en business et en théorie du changement pour être crédible auprès des parties prenantes. Et en fait, je suis pas d'accord parce que à un moment le changement systémique il se fait aussi quand tu laisses une marge de manœuvre pour la surprise, pour la sérendipité, pour l'innovation. Et je crois que ce qui a beaucoup fait le succès de Singa, c'est les gens qui le composent. C'est pas l'intelligence qu'il y avait derrière. Les personnes qui se sont mobilisées par milliers à plein de moments dans l'histoire de Singa ont créé aussi d'une certaine manière le succès et l'engouement parce qu'ils en étaient les meilleurs ambassadeurs. Ceci dit, bah oui, on monte une organisation, on se retrouve du jour au lendemain, notamment en 2015, de 0 à 8 employés, puis 20 très rapidement, à gérer un budget de plusieurs millions d'euros. Encore une fois, j'ai même pas 30 ans quoi, à ce moment-là de ma vie. Donc, et on me dit de faire du management et j'apprends ce que c'est que les entreprises libérées, le management opale. Et on fait de notre mieux aussi à ce moment-là en se disant il faut qu'on serve l'impact. Et pour servir l'impact, il ne faut pas qu'on se casse la gueule. Et ça, ça nous a permis vraiment de monter en compétences très vite, de varier les compétences aussi en interne. Et après quelques moments un peu casse-gueule, ce qui est normal, aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé un bel équilibre structurel, organisationnel, en termes de gouvernance, en termes de rentrée d'argent, de business model.
Oui, justement, ce business model, il s'appuie sur quoi ?
Alors, clairement, aujourd'hui, Singa, c'est une ONG au sens où 95% des rentrées d'argent, ça vient de la philanthropie, que ce soit de la philanthropie corporate, qui est assez dominant en Europe. En Europe, il y a quand même un gros trust du monde de l'entreprise dans les fondations. Oui. Et ça, c'est une de nos grosses rentrées d'argent. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en 2012, quand on s'est lancé, aucune fondation d'entreprise ne voulait miser sur la question de la migration et les réfugiés. Et à partir du moment où c'est devenu un sujet beaucoup plus politique, elles s'en sont très vite emparées. Et tout un écosystème a pu émerger grâce à ces financements qui arrivaient et ces fléchages. Et c'est très bien parce que nous, ça nous permet aussi d'avoir un impact beaucoup plus concret que donnez-nous 50 000 euros. Ça nous permet de sensibiliser les entreprises, de faire avancer les mentalités, de déconstruire un certain nombre de stéréotypes parce qu'on adore intervenir en entreprise, on adore aller mobiliser des salariés, des collaborateurs autour des projets portés dans nos incubateurs. Mais on sait qu'on a un très gros enjeu parce que réfugiés, à un moment, c'était le sujet et puis après, ça ne l'était plus et puis maintenant, ça devient un peu plus systémique. Mais on ne peut pas s'adapter continuellement aux politiques stratégiques des conseils d'administration, des fondations d'entreprise, ni aux politiques publiques qui varient en fonction de qui est au pouvoir. Parce qu'on a aussi en France, notamment, pas mal d'argent qui viennent des collectivités et de l'État. Donc, avoir un business plan, depuis le début, on savait que... un business model, on savait qu'on allait devoir vendre d'autres trucs. Et on a ouvert un espace de coworking à Paris, par exemple, qui génère des revenus, pas assez, clairement. Enfin, si on me demande aujourd'hui dans quoi investir pour faire de l'argent, je vais dire... pas les coworking, mais on a un très bel espace à Nation qui s'appelle Kiwanda, qui est vraiment dédié à l'interculturel. On l'a ouvert avec Coexister. Et après, on vend beaucoup de conseils. On vend du conseil aux entreprises sur comment diversifier son recrutement, comment se battre aussi contre les préjugés et les stéréotypes, les biais cognitifs qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et déconstruire notamment les biais racistes qu'on peut avoir dans le management. Après, on a aussi tout un terreau très fertile, comme je l'ai dit, sur l'investissement. On a tellement, là, ça fait 4 ans que les entrepreneurs qu'on accompagne sont dans les écosystèmes et qui commencent à lever des fonds et à être un peu, voilà, devenir assez gros. Donc, on a un terreau très fertile sur la prise de part dans leur capital, vu l'accompagnement qu'on propose.
Parce que vous étiez au tout début, finalement, des ESS. Parce qu'aujourd'hui, le mot entreprise impact est très, limite galvaudé. Mais au tout début de Singa, c'était vraiment les balbutiements. Vous avez fait partie des premiers en France.
Oui, et c'était génial d'être immergé dans cette culture parce que je crois que moi, à titre personnel, j'étais un peu... j'avais pas vraiment envie que Singa devienne une association. Ouais. Déjà, ce mot... on parle du fait que entreprise à impact ou à mission soit galvaudé, le mot association est tellement chargé de sens que historique pour certains, mais surtout, je crois qu'il y a une vision du monde associatif qui est très bénévole, avec des personnes plutôt âgées, et puis il faut surtout pas gagner d'argent. Et d'ailleurs, si on se paye de peu, c'est bien. Et j'ai rencontré tellement de personnes, notamment des travailleurs sociaux qui évoluent dans ce milieu et qui sont frustrés parce que les salaires sont bas et que les conditions sont précaires. Et finalement, on se retrouve avec des personnes précaires qui aident des personnes précaires. Et c'est très bien de proposer... à des personnes qui ont besoin d'aide, d'obtenir une aide. Mais je crois que c'est un pansement sur une fracture et qu'on ne répare pas la fracture, en fait, avec ça et qu'il faut s'attaquer aux causes du système. Et pour ça, il faut des moyens. Et du coup, ces moyens-là, ça passe aussi par le fait de générer de la valeur, de générer pas que de la valeur financière, mais de nouvelles offres, de nouveaux services. Et c'est ce qu'on fait notamment dans l'entrepreneuriat. Si tu regardes l'écosystème qui s'est créé avec les incubateurs, avec les entrepreneurs qu'on a accompagnés, tu te dis c'est bien parce que le monde des startups, c'est quand même un monde viriliste et monochrome. C'est pour ça que je suis là, je crois, d'ailleurs. C'est quand même pas un monde où il y a beaucoup de diversité. C'est très, très blanc, avec des produits de blancs pour des blancs. Et quand tu as des personnes qui viennent de quatre coins de la planète qui inventent de nouvelles manières de consommer, de vivre et d'acheter, bah, en fait, ça crée un impact derrière qui a un impact sociétal, qui a un impact positif et je crois qu'il participe à une très, très forte cohésion sociale.
Et vous avez, donc là tu parlais des incubateurs, hein, que vous avez, enfin de l'incubateur que vous avez mis en place à différentes startups qui se sont montées dans le cadre de
en Allemagne, en Suisse, en
voilà,
Espagne,
pas qu'en France d'ailleurs. Ouais. Vous aviez monté aussi un programme qui avait fait parler pas mal de Singa qui était Calme.
Oui, ça s'appelle J'accueille aujourd'hui, j'accueille.fr.
J'accueille.fr.
On a rebrandé.
Et tu peux nous en dire deux mots?
Oui, bah en fait, J'accueille, c'est né d'un hackathon. On a été les premiers à organiser un hackathon sur la migration en France. Et plein de gens ont eu cette idée qui, en vrai, existait en Australie à un moment, de dire bah, pourquoi on ferait pas un Airbnb, mais gratuit, où des personnes réfugiées peuvent être accueillies pour des périodes données. Alors, on lance le truc le 20 juin, on lance la plateforme le 20 juin 2015. À l'époque, personne s'inscrit parce que peu de gens nous connaissent. Sauf qu'entre-temps, il y a un fait médiatique qui est ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Et là, tous les médias nous appellent en disant « il faut qu'on parle de votre plateforme ». Et du jour au lendemain, en quelques jours, on se retrouve avec près de 12 000 inscriptions, 12 000 personnes en France qui se mobilisent pour accueillir. C'est énorme. Alors évidemment, après nettoyage de tout ça, et surtout, il fallait qu'on s'organise, on était quand même... on avait nos petits bureaux de 9 mètres carrés, et on était 3 plus 2 services civiques. Après nettoyage, on commence à organiser des formations, des moments de rencontre pour que ces personnes qui souhaitent accueillir puissent accueillir dans nos villes de présence. En plus, à l'époque, on est juste à Paris. Et après, on se développe dans les mois suivants à Lyon, à Montpellier et à Lille. Et en fait, on a des critères. On dit, bah, en fait, c'est 3 mois minimum. C'est dans une chambre avec une salle de bain. Ça ne peut pas être 2 jours sur un canapé. Sinon, la personne, tu la remets à la rue. Et en fait ça précarise plus qu'autre chose, ça peut faire du bien, il y a plein d'assos qui font ça et c'est formidable, mais on se dit bah, nous on va se positionner pour dire l'accueil il faut que ce soit au moins 3 mois, maximum 1 an, et surtout on a des partenaires qui sont des travailleurs sociaux qui accompagnent la personne, parce que dans l'accueil chez l'habitant, toi t'accueilles, tu peux pas être la personne qui fait le travail social, qui cherche du boulot, nanana. C'est vraiment, on se focalise sur la cohabitation, vous allez vivre ensemble, vous allez vivre une expérience ensemble,
toujours l'échange finalement.
Bah, toujours, ouais. Et puis sur un pied d'égalité, on match en fonction des centres d'intérêt des personnes. Ah bah t'aimes la danse, vous allez vivre ensemble. Et en fait, ça se passe bien. Très vite, ça se passe bien. Nous, on n'est pas surpris, mais apparemment, ça surprend beaucoup. Les plus gros problèmes qui aient pu être rencontrés, c'est des trucs de coloc, en fait. Oui, bah, t'as pas fait la machine, t'as pas fait la vaisselle, t'as mis la télé trop forte, des trucs comme ça. Bien sûr qu'il y a eu des moments où, dans certains accueils, ça s'est mal passé. Et nous, on est là aussi pour intervenir en termes de médiation, pour créer le cadre de la fin de l'accueil.
Mmh. Et comme une coloc peut mal se passer...
Absolument. Absolument. Et ce qui est génial, c'est qu'au bout de 9 mois en moyenne, bah, les personnes, elles s'en vont parce qu'elles ont un travail, elles ont un logement, elles ont des potes, parfois elles sont amoureuses, elles se marient, elles font des enfants et en fait, ça va. Et quand tu vois qu'au bout de 9 mois d'accueil chez l'habitant, les personnes, elles sont, on va dire, autonomes, bah, ça pose question en fait sur les économies d'échelle que tu peux mettre en place. Et là, on revient au truc du business plan parce que l'État, c'est aussi un client en fait à partir d'un certain moment. Quand tu vois que tu peux économiser près de 10 euros par jour et par personne accueillie, et que tu fais le calcul sur le moment de l'accueil, mais aussi sur l'après, bah, en fait, il n'y a pas 3 ans de logements sociaux, en fait, il n'y a pas 3 ans d'assistante sociale, en fait, il n'y a pas Pôle emploi tout le temps. Et en fait, ça fait des économies d'échelle qui très, très vite deviennent très importantes. Et aujourd'hui, bah, ce qu'on négocie avec l'État, c'est d'avoir un contrat à impact social pour dire, mais investissez sur des expérimentations massives d'accueil chez l'habitant. On a le pouvoir de le faire. Il y a près de 3% des Français qui veulent accueillir. Ça représente beaucoup de personnes. Ça représente plus de personnes que ce qu'il y a de réfugiés, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, et ça va faire des économies à l'État. Et en plus, ça va faire du bien à tout le monde parce que les gens, ils seront pas juste intégrés, ils seront heureux.
Et tu as des gens qui ont accueilli une première fois et qui ont renouvelé l'expérience ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y en a qui accueillent qu'une fois et qui ne renouvellent pas l'expérience. Il y a vraiment de tout. Quoi. Je pense que c'est comme les clients Airbnb.
Il y a ceux qui reviennent et ceux qui ne reviennent pas.
Il y a de très belles histoires.
Il n'y a pas de notes.
Il y a de très belles histoires. Après, il y a des gens qui décident de renouveler l'accueil. Par exemple, la personne, au bout d'un an, bon, en fait, ça se passe bien. Elle n'a pas spécialement envie de chercher un emploi. Pas du boulot, mais elle n'a pas spécialement envie de chercher un autre logement. Ils décident d'être coloc derrière. ça, c'est pas mal arrivé, ou ils prolongent d'un an. Mais dans ce cas-là, nous, on se retire, parce qu'on dit, bah, vous êtes autonome, vous n'avez plus besoin de nous
pour gérer cette relation-là.
Oui.
Alice, tu as fait partie des 12 premiers à rejoindre un programme. Ce programme, c'est un programme de l'Obama Foundation. Comment ça s'est passé, au-delà de rencontrer Barack et Michelle Obama?
Comment ça s'est passé? Déjà, le fait de recevoir un email avec écrit Barack Obama dedans, j'ai fait une petite danse de la joie.
Au début, je t'ai pas dit non, c'est un fake.
Non, j'étais au courant. J'étais au courant que la fondation recherchait des gens. Je savais pas du tout pourquoi, je savais pas ce qu'ils allaient faire et j'étais très focus Singa. Je venais d'avoir un enfant, j'avais 29 ans. C'était une période très difficile pour moi parce que j'étais CEO d'une organisation qui grandissait avec tout ce que ça amène d'enjeux, de questionnements, de conflits aussi. Quand tu dois taper tes premières ruptures conventionnelles ou licenciements même, c'était très dur, très très dur pour moi parce que moi je suis très guidée par mes émotions. En plus, je suis pas une manager implacable en fait. Et petit à petit, j'ai appris que c'était bien de diriger, de leader en fait avec ses émotions. Mais ça allait pas fort dans ma vie et je reçois cet email qui dit voilà, on vous a identifié, on a identifié 20 000 jeunes sur la planète, déjà c'est cool, et on ouvre un programme qui consiste à vous faire venir pendant un an à New York, à Columbia University. On vous en dit pas plus, mais on vous propose de candidater, c'était une candidature fermée du coup pour 20 000 personnes.
Et tu sais comment tu t'es retrouvée dans les 20 000?
J'ai mon petit doute sur qui m'a recommandé, mais j'ai jamais eu confirmation.
T'as jamais eu confirmation?
Non. Et apparemment, c'était confidentiel. Mais du coup, je fais tout le processus qui dure 6 mois de candidature, d'entretien, d'écrire des essais sur ma vision du monde. Enfin, c'était un peu challengeant parce que j'avais toujours pas porté la voix de Singa et parlé au nom de Singa. Et là, on me demande de parler de moi.
En nom d'Alice.
Ouais, ce qui me guide le matin, pourquoi je me lève. Évidemment, c'est lié à ce que j'ai fait. Mais là, c'est sur moi. C'est pas sur le collectif, c'est sur le perso.
Et donc, finalement, par rapport à cette période de vie que tu nous décrivais juste avant, ça tombait peut-être bien de faire ce travail?
Ça tombait très bien. En plus, je sortais on en parlera plus tard, mais d'une très, très grosse vague de cyberharcèlement. Ouais. Et ça a été assez dur psychologiquement. Et en fait, au bout de 6 mois, je reçois cet email où on me dit, vous partez dans 3 mois, vous êtes prise, vous êtes parmi les 12. Et là, je passe un an. Alors, au départ, c'est super. Il y a les paillettes. Enfin, ça a toujours été super. Mais...
Donc, tu pars avec famille dans la valise.
Mon mari,
bébé.
Mon fils. On s'installe à Harlem. On a un appart à Harlem. Et on est prise en charge à Columbia. On nous explique qu'on va pouvoir suivre les cours de notre choix à l'Université de Columbia. Trop fort. Et surtout qu'on va passer un an à fréquenter les personnes qui avaient fait partie de l'équipe de Barack Obama à la Maison Blanche. Il y a tout un côté paillette dans tout ça. Il y a tout un côté très cérémonial. Donc, il y a des soirées, il y a des déplacements. On va à Chicago, on va à Washington. On est toujours reçus vraiment comme des stars.
Et toujours les 12 ensemble.
Les 12 ensemble, 12 activistes du monde entier. Amérique latine, Asie, Afrique. Et moi, Europe. Et en fait, petit à petit, quand même, à force de rencontrer ces personnes, je commence à poser aussi des questions. Quand j'ai face à moi la personne qui a pris la décision que les États-Unis allaient intervenir en Libye, mais pas en Syrie. Quand j'ai face à moi des personnes qui ont été à l'origine des attaques de drones qui ont tué la famille de mes potes, c'est dur.
Mais comment on se positionne par rapport à ça?
Comment tu veux que je me positionne? Je suis en colère, j'ai envie de pleurer. Mais ouais. Ça ne changera rien au schmilblick, en fait. Donc, faut peut-être. Je me dis, il faut que j'aille au-delà de ça.
C'est le moment de poser des questions, peut-être aussi, et de comprendre.
Oui, et les personnes parfois sont très honnêtes dans leurs réponses, et parfois elles ne le sont pas, mais quand elles le sont, c'est fort parce qu'elles ont la tristesse, elles ont la colère aussi, elles ont les regrets, les remords, elles sont humaines en fait. Et c'est là que je prends conscience que ce qui compte, c'est pas « oh, c'est des méchants, ils ont pris des mauvaises décisions », c'est de comprendre pourquoi vous avez pris cette décision. C'était quoi, pas juste pourquoi en termes d'intérêt économique, politique, mais c'était quoi votre putain de boussole éthique et votre boussole morale quand vous prenez cette décision? Et là, les gens répondent. Ça peut être leur cœur, ça peut être la constitution américaine, ça peut être un patriotisme à toute épreuve. Et c'est là que j'apprends énormément. C'est là que j'apprends énormément parce que je me dis, mais nous, là, les 12, on est là parce qu'on est entrepreneurs sociaux slash activistes, militants, je ne sais pas quel est le label que les gens aiment bien nous coller, mais En tout cas, on est là parce qu'on a des valeurs, parce qu'on est guidé par des principes, parce qu'on a une boussole éthique très forte, parce qu'on a sacrifié énormément pour ce en quoi on croyait. Et sans parler des milliers de copains réfugiés qui ont sacrifié tellement plus. Et je me dis, eh ben, si c'était l'un de nous, en fait, demain au pouvoir, si c'était quelqu'un comme moi, comme mes copains réfugiés, comme Ina, Denis, Carlos, si c'était Trisha ou Mézine, une personne parmi les 12 Obama Scholars, est-ce que les choses se passeraient mieux? Et je finis cette année de formation en me posant vraiment cette question du lien entre pouvoir politique et pouvoir citoyen. En me disant, ben, est-ce que plutôt qu'être directrice de Singa, j'aurais pas plus d'impact en étant députée? Et je pense que la réponse est non, parce que la force du collectif citoyen est vachement plus puissante, parce qu'on est dans un système institutionnel qui fait que député, ben, en fait, c'est un peu limité en termes d'impact et de pouvoir en fonction de si t'es dans la majorité ou dans l'opposition. Mais ça amorce en moi une conversation intérieure sur comment on peut faire pour dépasser aussi une forme de plafond de verre qu'on voit dans l'entrepreneuriat social. Parce que je suis vraiment persuadée qu'il existe un plafond de verre de l'impact. Et que c'est très bien d'avoir plein de formations sur la théorie du changement, le changement systémique et le long terme. Mais moi, plus ça va, plus je me dis on n'a pas le temps. Et il faut aller sur quelque chose de beaucoup plus fort. Et en fait, il faut aussi que le monde politique se mobilise. Or, aujourd'hui, les partis ne comprennent pas, ne mobilisent pas, n'attirent pas sur des grands enjeux comme la crise climatique, évidemment la migration. On est à des années-lumière politiquement de ce qu'il faudrait faire, et pas qu'en France, partout. Ces enjeux-là, bah, en fait, il faudrait peut-être les porter au pouvoir, les amener au pouvoir. Et pour l'instant, les partis ne font pas ce travail. Et donc, c'est ça, mon année chez Obama, c'est ça la réflexion. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire. Je me donne 2 ans pour consolider Singa, pour consolider la gouvernance, en faire une ONG avec ses systèmes de gouvernance agiles, horizontaux, etc., pour consolider les sous aussi, parce que si on veut continuer de grandir, il faut de l'argent, et c'est pas 50 000 euros qu'il nous faut, c'est beaucoup plus, et consolider l'équipe qui va continuer de faire grandir cette organisation. Et c'est fait.
Et c'est fait, et ça nous fait la transition toute faite pour la partie d'après. Mais juste avant, tu as gardé des liens avec les 11 autres avec qui tu as passé cette année un peu folle.
On se parle tout le temps et on s'est entraidés quand il y a eu des crises. Ouais. Quand certains sont en danger, évidemment, on est là pour aider. Récemment, un ami de l'un de nous était coincé en Afghanistan et on l'a fait sortir d'Afghanistan. Il a pu venir à Paris. Et puis, évidemment, on est devenus très proches, tous. On a vécu cette année-là avec nos accords et nos désaccords. Mais quoi qu'il arrive, je sais que j'ai des frères et sœurs en Inde, à Singapour, en Tunisie, au Nigeria. Et on continue de collaborer sur des projets, oui.
Et vous avez des liens avec les promos d'après ?
Oui, on se parle. En tout cas, il y a des temps qui sont organisés. Et puis surtout, moi, la promo d'après moi, il y avait Christian Vanizette, qui est le fondateur de Make Sense et qui est un copain. Et du coup, c'était génial. Enfin, je pense qu'on est les seuls à être potes et à avoir vécu la croissance de nos organisations qui sont un peu des sœurs. Singa et Make Sense, ça s'est créé à peu près en même temps. Ouais. Ça a vécu les mêmes problèmes, les mêmes opportunités, les mêmes enjeux. Et d'avoir Christian faire ce programme, ça a été un truc qui nous a permis d'apprendre l'un de l'autre, parce qu'on n'a pas vécu le programme de la même manière, lui et moi. Et puis lui, il a eu le Covid, le pauvre. Enfin, il y a eu l'année Covid.
Oui, donc il y a eu peut-être un peu moins de galas et de...
Oui, un peu moins de déplacements. Mais c'était super intéressant, parce que vivre une crise sanitaire mondiale quand t'es auprès d'Obama, pour lui, c'était une belle opportunité aussi d'apprendre des équipes d'Obama. Bah voilà, vous avez fait comment pour gérer les pandémies, pour gérer Ebola, et ça lui a permis de créer et de faire monter le programme Réaction au sein de Make Sense. Donc, on a tous les deux notre petit narratif sur cette année-là, mais ce qui était génial, c'est qu'on nous a pas... Enfin, c'est pas Obama qui nous a formés, en fait.
Bien sûr.
On a chacun pris ce qu'il y avait à prendre, parce qu'on avait tout l'espace pour s'interroger, pour se mettre en colère pour adapter.
Tu as parlé tout de suite d'Afghanistan. Mm-hmm. Ces dernières semaines, Singa a évacué un peu plus d'une centaine de personnes. Ça s'est passé comment ? Tu peux nous raconter ?
Le 15 août, Kaboul tombe. Tout le monde savait que ça allait arriver, hein, mais il ne s'y passait pas grand-chose. Et sur le moment, enfin moi je fais un tweet parce que je reçois des centaines de messages de copains afghans qui sont soit là-bas, soit à Paris, et qui me racontent, notamment une amie qui s'appelle Shakiba, qui est artiste, qui est à Paris, et qui me dit ma mère a décidé de mettre en place un suicide collectif de ma famille, de ma petite sœur, de mes petites sœurs, de mon frère, parce que c'est une famille Hazara qui sont qui a été victime de plusieurs génocides en Afghanistan. Et elle me dit, ma mère, c'est une femme forte, mais là, avec l'arrivée des talibans, elle va préférer mourir et tuer sa famille. Enfin, tuer sa famille, ce qui était complètement prévenu et consciente, en fait. Et du coup, plutôt que de se livrer aux talibans. Et là-dessus, Shakiba m'envoie des photos de sa famille. Ils sont tous allongés dans leur lit, ils attendent. C'est chaud. Et je me dis, attends Alice, il y a forcément quelque chose qu'on peut faire. Et à ce moment-là, le tweet que je fais a énormément d'écho et des gens commencent à me dire, attends, des gens que je connais dans diverses organisations ou institutions me disent, attends, l'ambassade de France va mettre en place des évacuations. Et donc, je commence à appeler tous mes potes afghans et leur dire, est-ce que vous avez de la famille là-bas? Et je commence à faire des listes de personnes qui sont là-bas et qu'il faut sortir, que j'envoie au centre de gestion de crise, qui très vite est assailli. Et on comprend qu'il va falloir aller plus loin que faire des listes et les enregistrer, parce qu'il y a des milliers de personnes qui font des listes. Et on comprend qu'il va falloir appeler toute la planète et mobiliser un maximum de personnes pour faire en sorte que notre liste soit prise en compte l'ambassadeur, qui, au moment où les listes, où je suis en train de faire mes listes, l'ambassadeur est en train d'évacuer l'ambassade en hélicoptère tout en se faisant tirer dessus. Du coup, l'ambassadeur, il a été complètement débordé et on s'aperçoit que c'est compliqué en fait la coordination entre le centre de gestion de crise à Paris puis l'ambassade de France là-bas et on arrive enfin à avoir validation de l'ambassade que notre liste, la liste Singa, puisqu'elle s'appelle comme ça, est prise en compte. Moi à ce moment-là j'ai mobilisé mes copains afghans mais pas les équipes de Singa. On n'est pas, c'est pas le travail de Singa en fait de faire ça. Et du coup, on est un peu une bande d'activistes, une bande de potes qui parlons plein de langues tous en même temps et qui faisons des fichiers Excel, qui sommes en train de créer un groupe WhatsApp avec près de 60 personnes, parce que le reste, c'est des familles, des enfants, etc. On leur dit, voilà, c'est bon, vous pouvez aller à l'aéroport. Et là, on pense que c'est bon. Sauf qu'en fait, non, à l'aéroport, il n'y a pas une hôtesse d'accueil qui dit, alors, l'avion Air France, c'est par là. Oui. Il y a 15 000 personnes devant les portes. Il y a plusieurs portes, donc il faut savoir à laquelle aller. Il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il y a le checkpoint taliban pour accéder à l'aéroport qu'il faut passer. Il y a l'armée afghane qui a pour ordre de disperser la foule, donc qui tire, et qui tire à balles réelles, et qui tire des gaz lacrymaux. Il y a des mouvements de foule très forts qui blessent. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un mouvement de foule. Moi, oui, une fois, et franchement, c'est terrifiant. Oui. Et là, on a près de 100 personnes qui nous envoient une photo d'eux. Ça y est, ils sont tous regroupés à l'aéroport. Donc là, on voit les visages. On voit le papa de Med qui a 80 ans avec sa béquille. On voit la sœur de Rabi qui a un petit bébé de 2 mois. J'ai su plus tard qu'il y avait un bébé de 2 jours aussi qui était dans le groupe. On voit plein d'enfants. Là, il faut leur dire, on va y arriver. On va vous sortir de là. J'ai à ce moment-là, moi, aucune idée de ce qu'on va vivre. Ouais. Parce qu'on commence, on est une dizaine. Donc là, j'ai appelé Benoît entre-temps. Benoît Hamon, ouais, qui nous aide aussi à faire la liaison avec l'état-major, le Quai d'Orsay, l'ambassade, etc. Et les soldats sur place, les forces spéciales, les unités du RAID. Donc on se met à s'organiser, en fait, à se coordonner. Donc tu as le groupe WhatsApp avec tous les gens, tu as le groupe avec les bénévoles qui font les traductions, puis tu as le groupe un peu où on prend les décisions qui sont difficiles parce qu'on est amené à prendre des décisions difficiles. Est-ce qu'on va à la porte nord ou à la porte sud, en fonction des infos qu'on a, où est le risque terroriste le plus présent, où sont les soldats, où est-ce qu'il y a plus de chances que les soldats puissent les évacuer. Et donc là, on démarre 3 jours. Ça dure 3 jours. 3 jours dans la poussière pour eux. Et nous, à les guider. Et à chaque fois que les forces spéciales nous disent « c'est bon, on est à la porte », il faut qu'ils se mettent devant la porte et là, on pourra les exfiltrer pour qu'ils puissent entrer dans l'aéroport. Hein. Mmh. En fait, on a 9 tentatives avant que ça marche. Et on leur dit, il faut s'approcher de la porte. Ils nous disent, on ne peut pas, il y a trop de monde. On leur dit, si, il faut être devant la porte parce que les Américains ne laissent pas sortir les Français parce que raison géopolitique. Donc, il faut que vous soyez à 5 mètres de la porte. Ils disent, non, on est à 30 mètres, on est à 10 mètres. Enfin, c'est, voilà, plein de moments comme ça jusqu'à, tout ça commence un vendredi, jusqu'à un lundi matin, 6 heures, heure de Kaboul, 3 heures du matin, heure française, où on est en lien direct ce coup-ci avec les forces du RAID. Il n'y en avait pas beaucoup et ils en ont fait beaucoup des évacuations. Et là, ils sont identifiés. En plus, comme ils sont au milieu d'une foule, il faut qu'ils aient des signes distinctifs. Et une maman avait pensé à prendre des ballons gonflables pour que les enfants puissent jouer avec. Et donc, c'était le dernier ballon gonflable, ce moment-là. On dit, allez-y, gonflez, parce que tous les ballons explosaient à cause de la chaleur et de la foule. Elle dit, allez-y, gonflez le dernier ballon jaune. Et là, le soldat les voit et les identifie. Et là, ils les sortent. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on a 120 personnes parce qu'il y a... On a la liste, mais ils ne disent pas forcément quand ils sont des enfants, des mineurs et tout. Et on a 120 personnes qui sont sorties et qui sont amenées en France.
Et après, Singa a pris le relais.
Singa, mais l'État aussi prend le relais, mise en quarantaine, puis ensuite attribution de logement, les procédures d'asile, etc. Singa s'est mobilisé et se mobilise aujourd'hui pour l'accueil chez l'habitant de ces personnes. On s'est beaucoup mobilisé pour avoir des cartes SIM, des ordinateurs, des vêtements, des couches, tout ça. Et on a vu une très forte mobilisation. On a eu près de 200 sacs de fringues avec la Maison des Réfugiés, avec Emmaüs. Et ce n'est pas juste 120 personnes en tout. Il y a près de 2400 personnes afghanes qui sont arrivées à Paris pendant ces opérations. C'est peu, c'est très peu. Mm. C'est très, très peu comparé aux États-Unis ou à l'Allemagne. Et c'est évidemment scandaleux quand on entend Macron prendre position sur les flux migratoires. Les flux migratoires, aujourd'hui, moi, j'ai encore 600 personnes qui m'écrivent tous les jours, tous les matins, qui m'envoient des photos. Un couple de jeunes designers de mode de 25 ans et qui me disent « Est-ce qu'on part au Tadjikistan à pied ?» Qu'est-ce que je peux leur dire ?« Vous êtes un flux migratoire maintenant, les gars. Je ne pourrais pas vous aider. » Et je reçois encore des photos, des cris que je n'oublierai jamais de gens qui me disent « Mais c'est mes parents, en fait. C'est mes parents qui sont là-bas. C'est ma mère, c'est mon père qui ont dirigé des écoles pour jeunes filles. Ils ont 75 ans. Ils vont mourir, en fait. » Et je suis très révoltée parce que oui, c'est une belle histoire, ce qu'on a fait. Bien sûr, ça, c'était très fort. Mais là, aujourd'hui, l'humanité est en train de piétiner son identité avec ce qui se passe en Afghanistan. On dit que le 21e siècle a commencé le 11 septembre 2001. Pour moi, il a commencé le 15 août 2021 à Kaboul. On a laissé faire, on laisse faire et on regarde ailleurs. Et la cause de tous nos maux, elle est là, en fait. Parce que si on laisse ça se produire, comment veux-tu qu'on change quelque chose aux autres crises ? À la montée des inégalités, la finance à tout prix, la crise climatique.
À l'occasion de l'arrivée de Benoît Hamon en tant que DG de Singa, l'éditorialiste politique Thomas Legrand sur Inter a fait l'éloge des actions menées par les entreprises de l'ESS et les associations qu'il compare, je cite, au théâtre d'ombre de la vie politique institutionnelle destiné à désigner les responsables d'un pouvoir dont les manettes semblent de moins en moins répondre. Il poursuit avec ce discours. Pendant que la vie politique nationale fait son show, bien des Français sur le terrain, au sein de collectifs ou de l'épais tissu associatif, réforment justement, inventent les nouvelles relations sociales, de nouvelles façons de produire et consommer. Pour de plus en plus de personnalités, mais aussi de jeunes plutôt diplômés, faire de la politique, s'intéresser à la vie de la cité, peser sur la marche du monde, ne passe plus par les appareils destinés à prendre le pouvoir. Et de conclure, Benoît Hamon ne quitte pas la politique, il y entre vraiment.
C'est très vrai. Et je suis hyper heureuse déjà que ce soit lui, en fait, le nouveau directeur de Singa, pour raison personnelle, mais aussi parce que ça va peut-être lui faire du bien. Les politiques, Benoît, mais tellement d'autres, sont depuis des dizaines d'années, en fait, en politique. On se retrouve député, puis ministre, puis conseiller, puis re-ministre, puis redéputé, puis élu. Et je crois que ça éloigne un petit peu des combats initiaux. Les partis jouaient remplissaient très bien ce rôle, en fait, de terrain, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pense. Mais je crois que le fait de comprendre le terrain, de comprendre les territoires, de comprendre les grands défis, aujourd'hui, ça se passe au niveau de la société civile, ce qu'on appelle la société civile, en tout cas la mobilisation citoyenne. Et que c'est une victoire des mouvements citoyens. Il y a plein de victoires de mouvements citoyens qu'on voit de plus en plus, sans forcément poser la dichotomie mouvement citoyen versus politique que pose Thomas Legrand, Je ne suis pas trop d'accord avec cette dichotomie ou avec cette espèce de... Comme s'il fallait que l'un soit meilleur que l'autre.
Mais l'un doit travailler avec l'autre.
L'un doit clairement travailler avec l'autre. Mais le fait d'avoir aujourd'hui quelqu'un comme Benoît qui a l'expérience qu'il a dans un mouvement comme Singa, je pense que les deux vont se nourrir, les deux vont apprendre. L'organisation va apprendre de lui, tout comme lui va apprendre de l'organisation. Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Et en même temps... Enfin, encore une fois, moi, je suis persuadée de la force des mouvements citoyens. Je suis persuadée de la capacité à penser le changement, à penser le changement systémique. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a poussée à partir, c'est ce sentiment d'urgence et d'aller plus vite. En revanche, ce que je constate, c'est que le monde politique aujourd'hui progressiste, donc on va appeler progressiste, moi, j'ai pas envie de dire de gauche, de droite, machin, mais bon, tu regardes mon CV, tu vois à peu près où je me situe quand même. Mais ce monde politique-là ne comprend pas les enjeux, ne comprend pas les souffrances, ne comprend pas la colère des laissés pour compte, de millions de personnes laissées pour compte par la montée des inégalités et le pillage de ressources. Je pense à la colère des gilets jaunes qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas su entendre, que le monde politique n'a pas voulu entendre. Je pense à la colère des femmes. Qui 4 millions de patriarcats, en fait, il y en a marre. Maintenant, le mouvement, on se lève et on se casse, en fait. Et où la colère des activistes contre la crise climatique, qui, en fait, il y a une radicalité qui se pose. Je pense évidemment à Sandrine Rousseau, dont on parle beaucoup en ce moment, mais Greta Thunberg, qui est cible d'énormément de mépris de la part de la classe politique. Et en fait, au-delà de la colère, les solutions proposées par les mouvements citoyens, l'entrepreneuriat social, le monde de l'ESS, le mouvement des entrepreneurs sociaux, Ashoka, etc., ne sont pas trop bien, beaucoup prises en compte, en fait, par la classe politique. Et après m'être beaucoup posé la question, je me dis, mais en fait, on a besoin de nouveaux représentants. Il faut que des gens comme nous qui avons monté des mouvements citoyens, nous qui venons du terrain, nous qui avons cette colère, mais qui avons surtout la solution, il faut que ce soit nous, en fait, qui est à la tête des pays. Plutôt que de sortir de Sciences Po dans un truc de reproduction des élites et se retrouver conseiller ministériel à 25 ans, etc. Ben en fait, non, nous qui venons du terrain, on est les leaders de demain. On comprend les enjeux, on a les solutions. Maintenant, qu'est-ce qui manque concrètement pour qu'on y arrive ? Aujourd'hui, il y a très, très peu d'ouvriers, de personnes du monde rural, de personnes noires, de personnes musulmanes aussi, qui sont représentées, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. Il y a très peu de personnes qui ont monté des mouvements citoyens, qui ont vécu le changement systémique, qui connaissent aussi comment ça se passe, en fait, d'avoir de l'impact, qui savent faire de la stratégie citoyenne, qui se retrouvent aux commandes. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir accompagner très vite dans les prochaines années.
Et c'est ton nouveau projet ?
Et c'est mon nouveau projet.
Tu veux nous en dire deux mots ?
Alors, du coup, ça fait à peu près un an qu'avec une bande de copains aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne et en France, on travaille sur le lancement d'une académie politique à Paris. Une académie pour accompagner les futurs leaders politiques qui viennent justement du terrain autour de trois piliers très fondateurs. Et ça, je pense que tu l'as entendu dans tout ce que je raconte, qui sont l'éthique, l'intégrité et l'empathie, qui sont aujourd'hui, je crois, ce qu'on reproche le plus de manquer à la classe politique. Oui. Surtout qu'en face, parce que nous, activistes, entrepreneurs sociaux, on se mobilise beaucoup, mais en face, l'extrême droite, elle se mobilise beaucoup plus. Elle a une école avec celle de Marion Maréchal, il y en a une aussi avec Steve Bannon en Italie.
Ils sont très bien organisés.
Ils sont rémunérés, ils sont payés. Steve Bannon donne énormément d'argent. On voit la campagne, pseudo-campagne du pseudo-candidat Éric Zemmour, toujours pas déclaré, qui est très, très bien ficelé, très bien financé. Mais je pense aussi au camp d'été de Génération Identitaire où tu peux aller apprendre la boxe et le droit constitutionnel. Les colonies de vacances en Ukraine où tu peux aller t'entraîner à manier un FAMAS. C'est une enquête qui est sortie dans Vice il y a deux ans. Ça existe. Il y a des colonies de vacances militaires d'extrême droite où beaucoup de Français peuvent se rendre. Les chaînes YouTube de Papacito qui incitent à tuer des islamo-gauchistes. Ils ont tout compris, en fait. Ils ont les médias, ils ont l'éducation, ils ont la mobilisation citoyenne. Ils font. En face, on fait rien. Le camp progressiste ne fait rien. Ni les partis, ni les institutions. Donc cette académie, elle vise aussi à accompagner, outiller les personnes qui sont guidées par une boussole éthique, de changement, guidé par l'envie de se battre pour une justice sociale, une justice environnementale, une démocratie plus éthique, bah, c'est pour les outiller à entrer dans le monde politique. Et ces trois principes, éthique, intégrité, empathie, bah, c'est un curriculum où on met en lien les participants avec des chefs d'État, avec des ministres anciens, nouveaux. Ça peut être Alexandria Ocasio-Cortez, comme ça peut être Matteo Renzi.
Oui, c'est à l'international aussi, pas franco-français.
Très, très peu de Français, en fait, parce que... Ce serait facile, je trouve. La classe politique française, on l'a beaucoup entendu. Et ce serait biaisé. Et ça mettrait une étiquette qui n'est pas forcément celle de la réalité. Donc, avoir des internationaux, des chefs d'État, des personnalités politiques, des prix Nobel internationaux, avoir un curriculum de cours à la fois inspiré de ce que fait Sciences Po ou ce que fait Columbia University, mais aussi ce que fait tout l'univers un peu hacker, comme l'Institut des Futurs Souhaitables, et mettre à leur disposition surtout une armée de coachs, de psys, de nutritionnistes, de coach en méditation, de coach sportif, parce qu'il y a cette question très forte de l'ancrage. La violence envers les personnalités politiques n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, les violences, la haine en ligne, la violence physique également. Que tu aimes ou pas une personnalité politique, tu ne peux pas menacer ses enfants devant elle. Tu ne peux pas aller devant sa porte et dégrader sa maison. Parce qu'elle est là pour servir l'État, et servir l'État, bah, t'es plus un individu, t'es un serviteur de l'État. Et en fait, quand tu te lances en politique, bah, y a quand même vachement... Enfin, moi, j'entends beaucoup cette peur de la part des leaders civiques qui disent, mais en fait, c'est trop violent. Je vais arriver dans un truc de violence. Tiens, bah, ok, c'est peut-être très violent. On va faire changer ça, mais avant que ça change, il va falloir y aller. Et pour ça, de quoi on a besoin? On a besoin d'être ancré, on a besoin d'avoir une santé mentale, mais d'avoir une discipline. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai apprises avec Barack Obama. Première chose qu'il m'a dite, c'est ce qui est super important, c'est la discipline. Faire du sport, bien manger, être avec sa famille, profiter de chaque moment, dormir et ne pas se tuer à la tâche, parce que sinon, on pète les plombs, on grille, on oublie ce pourquoi on se bat et on entre dans des trucs où il faut qu'on dise ça devant les médias, il faut qu'on empêche la trahison de machin. Et c'est pas ça, en fait, servir. C'est pas ça l'intérêt général, c'est pas ça le bien commun. Bien commun, c'est être guidé par justement tes convictions, te battre pour elles, pour l'intérêt général.
Et comment on va postuler à cette académie ?
On postule pas, c'est sur nomination. Académiedesfuturleaders.com. En fait, on peut nominer quelqu'un, sa mère, son frère, son meilleur pote. Il y a évidemment tout un formulaire pour dire bien pourquoi sûr. On considère que cette personne sera le leader, la leader politique, j'espère la leader politique. Et après, il y a un jury composé de personnalités internationales, politiques, activistes, mais aussi artiste, avec à la clé 6 mois d'accompagnement. L'académie, c'est 6 mois en semaine, et d'accord. C'est rémunéré.
D'accord.
Parce que moi, je pense que les futurs leaders politiques, on ne peut pas leur demander de bosser, de en plus être présent le soir et le week-end pour apprendre, surtout quand on est une femme, qu'on doit rentrer, récurer les chiottes, faire la bouffe, et en plus se faire traiter de pute quand on marche dans la rue, hein, parce que ça, c'est cadeau.
Ça fait beaucoup. Vous avez prévu un parrain ou une marraine pour cette première promo?
Alors là, franchement...
Non, je vais vous demander.
Je la reformule peut-être. Ouais. On n'a pas de parrain et de marraine. Bon, déjà, je crois que ça fait partie d'un vieux monde d'avoir une seule et même personne qui
incarne. Ça peut être plusieurs.
Voilà. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a un écosystème. On est aussi un mouvement. Donc, évidemment, qu'on travaille avec tout un tas de personnalités, et pas que politiques, hein, d'ailleurs. En termes de personnalités politiques, oui, on a des intervenants comme Ben Rhodes, qui a été la plume d'Obama, David Simas, qui a été le chief of staff d'Obama. Bon, il n'y a pas que du Obama, hein, je rassure. On invite Sana Marin, on invite Jacinda Ardern aussi, première ministre de Nouvelle-Zélande. On a François Hollande qui va intervenir parce que, oui, il a été président de la République et en fait, c'est important. On invite Madame Sirleaf, prix Nobel de la paix, première femme présidente du Libéria. Et on a aussi tout un tas d'artistes comme Yael Naïm ou Abdel Malik qui sont des artistes très engagés, qui voient l'art comme un moyen d'expression politique. Et on a tout un tas d'activistes prix Nobel de la paix comme Nadia Mourad ou Trisha Shetty, qui est une activiste indienne, présidente du Paris Peace Forum et qui se bat pour la démocratie et la paix.
Et c'est ouvert à toutes les nationalités ?
C'est ouvert. On commence en France. Avec... Donc, bien sûr, il y a Enfin, si t'es pas français, c'est pas grave.
Oui, voilà.
Donc, bien sûr, c'est ouvert à toutes les nationalités. Mais comme on commence sur la France, ça va quand même être orienté France. Évidemment, on aimerait beaucoup avoir des participants qui postulent depuis la Guyane, depuis la Polynésie, depuis la Nouvelle-Calédonie, depuis Mayotte.
Ouais.
Je pense que c'est hyper important. Et puis, c'est hyper important la dimension de territoire. Il ne faut surtout pas que ce soit l'écosystème parisiano-parisien. Mais évidemment, on va faire des sélections sur... la capacité à avoir mobilisé des personnes, enfin, il faut que ce soit des personnes qui aient déjà une expérience forte en termes de mobilisation citoyenne, qui incarnent déjà des mouvements d'au moins 50 000 personnes, comme sur les femmes, sur le climat ou sur la démocratie.
Tu peux nous rappeler le nom ?
L'Académie des futurs leaders.
L'Académie des futurs leaders. Je pense que tu viendras nous en reparler à ce micro. Je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière après ce jingle. C'est le moment généralement où tout le monde danse dans le studio. Quand on est entrepreneur, mais quand on travaille aussi dans la mobilisation, il y a toujours plein de premières fois. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier coup de bluff ?
Quand on démarrait Singa, évidemment, on disait à tout le monde qu'on était les meilleurs. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai adoré ces premiers coups de bluff, de dire à des interlocuteurs, potentiels partenaires financiers, que oui, on avait évidemment déjà beaucoup d'argent et un super modèle économique et qu'on était toute une équipe salariée très, très pro. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. On était chez nous devant des pizzas, pas payés. Moi, aucun de nous d'ailleurs, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer le loyer, on avait des jobs à côté. Mais on y allait au culot. Et on y allait au culot en disant que Singa, ça allait être une révolution. Ça a marché. Après, je ne sais pas si je le referais aujourd'hui. Ouais. Parce que je me sentais pas honnête. Et fake it till you make it, en fait, ça a ses limites. Je crois qu'aujourd'hui, je me sens, dans le cadre de la création d'un nouveau projet comme l'Académie, je me sens plus éthique et plus en phase avec moi-même que d'être honnête. De dire, voilà, on a besoin de 350 000 euros, on les a pas. Mais on va y arriver, mais on les a pas.
Et ton premier dilemme ?
Mon premier dilemme, c'est la première fois que je me suis servi de mes privilèges de directrice générale pour faire passer quelqu'un la frontière. C'était, j'ai utilisé la zone grise du droit et les réseaux que j'avais, sans mentir, mais en invitant quelqu'un à venir en France avec un visa touriste, parce que j'organisais un très gros événement avec des partenaires institutionnels. Et je l'ai faite venir comme intervenante, en prétextant, là j'ai un peu menti, qu'elle avait un doctorat en intelligence artificielle, ce qui n'était pas du tout le cas. Elle était activiste humanitaire syrienne. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. Ce n'était pas vraiment un dilemme sur le moment quand son mec m'a dit « Alice, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma femme, elle est à Damas. Est-ce que tu as une idée de comment on peut la faire venir ?» Je dis « Mais évidemment, on va l'inviter, elle sera speaker. » Elle aura un visa touriste, elle va passer et puis elle demandera l'asile. Là, je n'ai pas hésité une seconde. En revanche, j'ai hésité après en rentrant chez moi parce que j'en ai parlé. Puis une partie de mon entourage m'a dit « tu fais venir des terroristes ». Une autre partie de mon entourage m'a dit « mais pourquoi elle ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Et ça a été le début pour moi d'un dilemme qui s'est confirmé pendant l'Afghanistan. Qui te dit, c'est vrai, pourquoi elle et pourquoi pas quelqu'un d'autre, en fait. Si j'ai du pouvoir, si j'ai ce privilège, pourquoi pas un maximum de personnes. J'ai mis ce dilemme de côté quelques années, et là, très récemment, avec l'Afghanistan, il est revenu ce dilemme quand il a fallu faire des listes, et que les listes s'allongeaient. Mmh. Et qu'à un moment, quelqu'un me dit, mais Alice, il va falloir que tu arrêtes d'allonger, de dire oui. Et j'ai regardé la personne, j'ai dit, en fait, c'est pas mon métier de choisir qui va vivre ou mourir. Et je me suis rappelée de cette première personne il y a quelques années et des dilemmes que j'avais ressentis en disant ça c'est le boulot d'un État. Ça, c'est le boulot de militaire. Mais moi, à aucun moment, on m'a formée, on m'a entraînée. Et donc, en fait, je vais faire ce que je veux. Et je ne priorise pas, je ne choisis pas. Je le fais. Et c'est comme ça, d'une certaine manière, que j'ai mis fin plus ou moins à mon dilemme.
Le conseil qu'on t'a donné, Alice, c'est que tu n'as pas suivi.
Tais-toi. On me l'a beaucoup dit. Je suis très extravertie. C'est vrai que parfois je peux dire n'importe quoi. J'ai pas de
filtre.
Dans le flow, j'ai pas de filtre. C'est difficile pour moi d'avoir des filtres. Ouais. Professionnellement aussi. Mm-hmm. Et je l'ai suivi pendant un temps.
Ouais.
Mais
c'était un peu contre nature.
Ça a généré pas mal de frustration et finalement je me suis aperçue que c'est pas de me taire qui change les choses, mais c'est de prendre le temps de réfléchir à stratégiquement à quel moment je peux dire vraiment ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur, même si ça fait mal, même si ça crée des problèmes. Alors, j'imagine que les personnes qui nous écoutent se disent de quoi elles parlent, mais par exemple en termes de management, quand tu te retrouves à la fois dans les médias et en plus, le terme CEO, quoi, c'est un terme. Moi, mon contrat, c'était directrice générale d'association. C'est pas CEO d'ONG, mais bon, tout est dans le narratif. Mais ça induit une relation avec les équipes. Ça induit une relation avec les partenaires. Et du coup, tu dois être super stratégique, en fait, sur comment tu vas faire passer tes messages tout en gardant ton intégrité. Donc, tais-toi. C'est un message, c'est quelque chose que je refuse aujourd'hui d'écouter. Un conseil que je refuse d'écouter. Mais celui que j'écoute, en revanche, c'est stratégise.
Oui.
Si tu veux incarner, incarne. Si tu veux l'ouvrir, ouvre-la. Ne t'excuse pas. C'est ce que je me le dis tout le temps. Ne t'excuse pas.
D'assumer aussi.
Assume.
Assumer
voilà.
Les propos.
Parce que, t'es directeur, en fait, tu représentes, tu incarnes, donc t'assumes. Mm. Et c'est pas facile, hein, parce que quand je vais parler sur un plateau télé ou à ce micro, je parle pas que en mon nom, en fait. Enfin, quand je parle de moi, oui, mais quand je parle de Singa, je parle au nom de Singa. Singa, comme je l'ai dit, c'est 50 000 personnes, une centaine de salariés. Il y a beaucoup de gens qui croient au projet. Et je parle pas au nom d'Alice Barbe quand je parle au nom de Singa. Je parle en leur nom à eux. Et c'est eux que je sers. C'est oui. Eux que je suis censée servir.
Les conseils que t'aurais pas dû suivre?
Fais un business plan.
Tu nous l'avais déjà dit un peu tout à l'heure.
Non, c'est intéressant, mais ça doit pas devenir l'alpha et l'oméga de tout, en fait. Mm. C'est très important de se confronter à la réalité financière de l'organisation, la réalité de ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pas pouvoir faire, les projections, poser les choses. Parce que oui, non, tu fonces pas. Tiens, j'ai 50 000 euros, je vais les dépenser en 6 mois et puis après c'est fini. Quoi. Non, il faut être, faut être un petit peu organisé. Mais le business plan n'est pas l'alpha et l'oméga de toute organisation, a fortiori entreprise sociale en fait. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et à force de focus business plan, on en oublie l'identité. Et oublier l'identité à la fois des personnes avec qui tu travailles en termes d'équipe, mais aussi en termes de communauté. Et ça t'amène à toi oublier ton identité.
Et le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner?
Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas avoir peur. Et ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais moi, j'ai beaucoup eu peur du pouvoir. J'ai beaucoup eu peur de rendez-vous. J'ai beaucoup eu peur de ce que l'autre allait penser de moi. J'ai même vécu dans cette terreur-là, la terreur de ce que aussi les équipes allaient pouvoir penser de moi, la peur de rater un financement, de pas assez faire, de pas assez bien faire. Et
lié un peu au syndrome d'imposture ou...
Oui, carrément. Ouais. Carrément, mais il n'y a pas que le... Enfin, on parle beaucoup, et moi la première, du syndrome de l'imposteur, mais c'est normal, t'es entrepreneur. Bah, bien sûr que t'as peur. Enfin, faut avoir une certaine dose de courage pour te dire je vais dédier ma vie à un projet, mais en même temps, le pouvoir peut faire peur. Et plus il y a d'argent, plus il y a de pouvoir, plus on va être amené, peut-être mécaniquement ou parce que c'est volontaire, à ressentir la peur. Et ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que on pense que le pouvoir c'est beau, intime et privilégié, et qu'il faut ressembler au pouvoir, alors qu'en fait non. On est en démocratie en plus. Le pouvoir, il est partagé, il est censé être partagé. Et la valeur qu'on apporte, et toutes les tripes qu'on met dans la valeur qu'on apporte, ça nous donne aussi beaucoup de pouvoir.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
À quoi elle rêvait, petite Alice?
Moi, je rêvais beaucoup à remonter le temps. Je me faisais des grandes sessions comme ça. Alors, je crois qu'il y a un terme maintenant sur TikTok... c'est de l'auto-hypnose, il y a beaucoup d'ados qui font ça, oui. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et je rêvais beaucoup que je remontais le temps et que j'allais voir genre Louis XIV, tu vois, pour lui dire comment ça allait se passer dans le futur et dire en fait il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses et d'autres qu'il va falloir que tu ne fasses pas. Et je me faisais beaucoup d'uchronie quoi, dans ma tête. Et d'autres choses auxquelles j'ai rêvé en grandissant, c'était d'être journaliste, d'aller sur des zones de conflit, des zones de guerre, ou de travailler aux Nations Unies et de me confronter. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, je n'ai pas un énorme syndrome Jeanne d'Arc. On dit aussi, à raison d'ailleurs, de White Savior. Mais j'avais envie d'avoir un impact, c'est clair, d'une manière ou d'une autre. Après, le truc du White Savior, de la sauveuse blanche qui arrive, je ne sais pas si je suis allée au bout de ma déconstruction. Je crois qu'on ne déconstruit jamais assez ces a priori. Mais en tout cas, j'ai compris que les grands enjeux d'inégalité, ça pouvait être dans les pires zones comme dans les meilleures. Et que ça commençait par moi, ça commençait par mon entourage, ça commençait par mon quartier. Et que c'est là que je pourrais avoir un impact.
Et dans ta famille, il y avait déjà des personnes qui étaient très investies, qui se mobilisaient sur des causes?
Alors oui, absolument. Moi, je viens d'une famille de fascistes, donc hyper investies, hyper mobilisées en faveur de l'extrême droite. Des personnes, ma grand-mère faisait des collages la nuit en faveur de Jean-Marie Le Pen. Donc je viens d'une famille d'activistes. ma mère a pu s'échapper de cette famille dès qu'elle a eu 18 ans. Et du coup, je n'ai pas grandi en direct, mais on ne m'a jamais interdit de voir ma famille. Donc, j'ai vraiment grandi en allant en vacances, toutes les vacances, chez ma grand-mère et ses neveux, ses cousins, etc. Et c'est terrible parce que j'ai grandi en entendant tout ça et du coup, en ayant un peu cette espèce de révolte une fois ado, de dire « mais comment vous pouvez dire des trucs comme ça ?» Quand j'étais petite, on me chantait « Maréchal, nous voilà ». Il y avait une ode à la collaboration française, au maréchal Pétain, à la France, la gloire de la France. Et ça m'a énormément révoltée. Je crois que ça a été un gros moteur dans mon engagement que de me dire « mais en fait, ces idées-là, je veux qu'elles meurent ». Et je pensais qu'elles allaient mourir avec ma famille.
Oui.
Or non, elles ne sont pas mortes et elles prolifèrent. Et du coup, ça a déclenché chez moi une vraie volonté d'engagement parce que c'était un univers avec lequel je cohabitais. Et en revanche, ma grand-mère, malgré tout, je l'ai aimée comme une grand-mère. C'est compliqué aussi aujourd'hui de me positionner et de la regarder dans les yeux. Enfin, je l'ai fait tellement de fois, de lui dire « mais tout ce pour quoi tu te bats, c'est ignoble et je vais tout faire pour empêcher que ça arrive ». Elle n'est pas morte, hein, ma grand-mère. Elle vit encore. Je ne l'ai pas vue depuis quelques années parce que je me suis aperçue que ça ne servait à rien de lui dire tout ça. Et qu'il fallait...
Que le dialogue ne se... peut pas se mettre en place. C'est pas les mêmes
matrices. Avec une dame de 94 ans, c'était un petit peu compliqué.
Bah oui, c'est sûr.
Mais en tout cas, ce qu'elle incarne et ce que ma famille incarne, c'est oui, effectivement, on est dans un tel extrême que c'est... Le dialogue, je ne sais pas si j'y crois, non.
Et donc, tu t'es construit plutôt en opposition à tout ça.
Mm-hmm.
Tu disais que ta maman s'était extirpée.
Oui.
Ça a été une source d'inspiration.
Ah ouais, ma mère, c'est une combattante. Hein. C'est une combattante qui votait la Guillet, mais qui avait des bottes Hermès. c'est une combattante et une battante. C'est une femme qui est partie à 18 ans d'une famille qui l'oppressait. Avec ce qu'il faut dire, c'est que dans les familles d'extrême droite, de la bourgeoisie parisienne, il y a aussi une forme de violence à l'égard des enfants. Le fait de considérer qu'on possède ses enfants et puis qu'une femme, de toute façon, c'est bon à marier et que ce n'est pas la peine de faire des études, il vaut mieux faire des cours de bouquet. Mmh. Éventuellement parler anglais parce que quand notre mari a besoin de nous, quand il invite des clients, ça fait bien. Voilà, la cuisine, etc. Donc ma mère s'est barrée et s'est construite par elle-même, par les études, par l'amour des études, l'amour de la lecture. Elle s'est retrouvée prof de français, latin et grec, ce qui fait que moi, à 5 ans, je savais l'alphabet grec. Et puis, antiquaire. Et aujourd'hui, c'est une femme qui me dit, moi, en fait, je suis très heureuse quand je suis seule, je suis très heureuse de ne pas avoir de mec. Et à chaque étape de ma vie, elle m'a montré ce que c'était que d'affirmer à la fois ses convictions, mais aussi son indépendance en tant que femme. Et je crois qu'on a toutes vu nos mères souffrir à un moment ou un autre à cause des hommes. Ça a été mon cas. On a peut-être aussi toutes souffert de violences sexuelles, sexistes, que ce soit de se faire insulter en marchant dans la rue, mais que ce soit aussi de vivre les violences sexuelles. Et en fait, ma mère, elle a toujours été là pour dire non. Et donc ça a été un vrai modèle et un vrai exemple.
Donc là, tu viens de nous parler de ta maman. Il y a d'autres... personnes qui ont forgé la femme que tu es?
En fait, il y a toutes les personnes qui sont devenues mes amies, que j'ai rencontrées à Singa.
Ouais.
Quand on a en face de soi des personnes qui se sont battues contre Poutine ou contre Bachar al-Assad à 20 ans, qui ont refusé de faire leur service militaire, qui ont organisé des manifestations pour la démocratie, qui ont été en prison et qui ont été torturées pour ça, on se demande vite, et si c'était moi,
Est-ce que je me serais battue à ce point-là? Et je ne le saurais jamais. Enfin, en tout cas, j'espère que je ne le saurais jamais. J'espère que je ne saurais jamais ce que je ferais face à la torture. Mais ça, c'est une force, en tout cas, moi, qui m'impressionne et qui m'inspire. J'ai une forme peut-être même de jalousie un peu malsaine envers mes copains. Je me dis, ouais, je ne sais pas, moi, si j'aurais ce courage. Et oui, donc je pense à Ina, qui aujourd'hui est en France, qui a fait Sciences Po, qui a monté sa boîte. Plus rien à voir avec la femme qui organisait des manifs anticapitalistes à Moscou, mais qui est devenue ma meilleure amie, avec qui je partage tout. Et on est devenus super amies parce qu'on parle de politique, parce qu'on est féministe, parce qu'on a appris l'une de l'autre. Je pense à Trisha, qui est activiste indienne, Trisha Shetty, dont je parlais tout à l'heure, qui, pareil, a été arrêtée en Inde, un gouvernement enfin, terrible. Ce que Modi a fait à la démocratie indienne, c'est littéralement un coup de couteau. Elle s'est battue pour défendre les droits des minorités musulmanes dont elle ne fait pas partie. Et elle a été arrêtée pour ça. Et elle est régulièrement harcelée ou tournée en ridicule par le gouvernement indien. Et en fait, cette force, cette motivation, cette capacité de se dire bah, « je ne m'arrête pas, je continue mon engagement, je continue mon combat », ouais, ça, ce sont des figures inspirationnelles. Et en vrai, aujourd'hui, c'est pas Obama que j'admire, quoi. C'est Trisha, c'est Ina, c'est Carlos.
C'est les vrais gens que tu as rencontrés via Singer. Mmh. On a monté, il y a l'année dernière, un autre podcast avec une sista, d'ailleurs, qui s'appelle « Philosophie ». Et qui donne la parole aux 7-18 ans sur leur rapport au digital, en partant du principe que bah, certains le subliment et font des trucs incroyables grâce au digital et atteignent déjà leurs rêves alors qu'ils sont encore enfants, et d'autres malheureusement le subissent. Toi, tu as subi du cyberharcèlement suite à une interview que tu as donnée pour Libé et qui a été reprise sur un site d'extrême droite. Comment on gère ?
On peut le citer. Hein.
On peut le citer ?
Oui,
ok.
J'ai aucun problème à citer F de Souche.
F de Souche.
Au contraire.
Donc, qui a été repris par F de Souche. Mm-hmm. Et là, c'est la déferlante et tu reçois des centaines de milliers de messages. Comment on gère ce type de situation ?
Ben, sur le moment, je reçois 360 menaces de mort et de viol sur des commentaires sur un post Facebook sur le site de F de Souche. C'est pas la première fois que je reçois des horreurs. Que des milliers de migrants te baisent à mort, que la torture soit rétablie pour que je m'occupe de toi, traîtresse, sale blanche. Mais c'est la première fois que j'en reçois autant d'un coup en si peu de temps. Et comment on réagit ? Ben, on va porter plainte, en fait. Et sur le moment, ce n'est pas le premier réflexe que j'ai eu, mais,
oui.
Mais quelques semaines plus tard, j'ai porté plainte. Et il faut porter plainte, parce que sur le moment, on ne se dit pas... C'est une violence, c'est illégal, je dois m'attaquer à ces personnes et les faire condamner. On ne se dit pas ça, mais il faut qu'on se dise ça. Donc j'insiste vraiment là-dessus, il faut que chacune des personnes victimes de cyberharcèlement soit consciente qu'on porte plainte et on gagne. Pas à chaque fois. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de chance, je suis très privilégiée parce que, un, j'ai été très bien accueillie par la police, ce qui n'est pas le cas de toutes mes copines qui m'ont raconté avoir porté plainte. Deux, il y a eu une enquête. La procureure m'a téléphoné, m'a dit qu'elle allait faire une enquête. Il y a eu à peu près un an et demi d'enquête. Il y a un dossier de 800 pages. Pratiquement toutes les personnes ont été interrogées par la police, y compris le fondateur du site F de Souche.
D'accord.
Et trois, il y a eu un procès avec un avocat formidable, Edmond Fréty, qui m'a été proposé en pro bono par la Fondation des Femmes, que je remercie. Et le procès a été gagné. Et ça a fait jurisprudence.
Oui, c'était une première.
C'était une première. Alors, il a été gagné contre 7 personnes, hein, oui. Pas contre 360. Mais quand même, ça a été une victoire. En revanche, moi aujourd'hui, ce qui m'interroge beaucoup, c'est les sites comme F de Souche ou autres de la fachosphère. Je mentionnais tout à l'heure Papacito ou Zemmour. C'est qu'ils sont hyper bien organisés. Parce que c'est smart, en fait. Tu regardes F de Souche, ils prennent des contenus sur des sujets identitaires, immigration, femmes, Greta Thunberg, et il le balance en pâture à une communauté de gens qui ont peur. C'est vraiment une machine à clics et des gens qui ont peur et qui sont en colère.
Et donc, forcément, ça crée de la haine. Forcément, je reçois des insultes. Mais les vrais méchants qui vraiment pourraient effectivement passer à l'acte contre moi, ce n'est pas les gens qui mettent des commentaires sur F de souche. C'est les gens qui le font de manière anonyme en m'envoyant des messages privés. Ceux qui veulent m'intimider et qui savent très bien comment m'intimider. Mais ceux qui font ça sur F de souche, ceux que j'ai fait condamner, quand ils disent « je ne savais pas, c'est pas moi », bien sûr qu'ils savaient que c'était eux, mais ils ne se rendaient pas compte. Oui. De ce qu'il me faisait, il ne se rendait pas compte de qu'il y avait un humain derrière, que j'étais là, que je venais d'avoir un enfant, que j'ai souffert, que j'ai fait une thérapie, que j'ai fait une insomnie, et de qui j'étais, de ce que je faisais, de quels étaient mes combats. Il ne se rendait pas compte parce que j'étais juste une sale pute sur Internet.
Que pour beaucoup, l'écran protège de la responsabilité d'assumer ses propos.
Oui, et puis c'est pas faux, quoi. Ils s'en rendent pas compte. Alors quand les flics viennent les chercher, là, ils s'en rendent compte. Quand on est devant un juge, oui, ils s'en rendent compte. En revanche, il y en a qui s'en rendent compte. Et ouais, des sites comme F de souche, ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est tout cela est pensé pour nous silencier. Envoyer une horde de messages de haine, faire instrumentaliser une horde de messages de haine, c'est pensé pour nous silencier. Et là, ben, c'est ça que je refuse, parce que moi, je me tairai pas.
Et quand on est maman, t'es maman d'un petit garçon, qu'on voit tout ce qui se passe justement sur les réseaux sociaux, qu'on a été soi-même victime de cyberharcèlement, comment t'envisages en fait d'expliquer ça à ton petit garçon ?
Je lui dis ce que je fais. Alors bon, il a 5 ans, je vais peut-être pas lui parler de cyberharcèlement.
Non.
Ce qui me rend très triste, c'est qu'il n'a pas choisi. Et ça, c'est un peu un dommage collatéral, parce que ni mon mari, ni la famille de mon mari, ni ma famille, personne n'a choisi d'être potentiellement une victime du cyberharcèlement. Puisqu'évidemment, cyberharceleurs, ils savent aussi très bien s'en prendre à la famille. Moi, j'ai choisi mes combats. Moi, je sais, j'accepte le deal. Mais pour mon fils, c'est plus compliqué, ça va être plus compliqué. Donc... ce que j'espère pouvoir faire dans les prochaines années, c'est avoir des conversations le plus honnêtement possible avec lui. Et évidemment, parler de ce phénomène le plus tôt possible, parce qu'en plus, j'ai un petit garçon. Donc, quand j'entends... c'est une citation connue, mais c'est pas protéger vos petites filles, c'est éduquer vos petits garçons, l'enjeu. Donc, je vais avoir un beau et gros travail de pédagogie qui me fascine déjà.
Qu'est-ce que tu aimerais du coup lui transmettre au-delà de ces considérations sur tout ce qu'il faut faire sur le web ?
Je crois que c'est déjà transmis parce que ce qui rayonne chez mon fils, c'est l'empathie.
Ouais.
La capacité d'empathie. Et tu vois, on nous parle encore de diplôme, de carrière, de succès, de tout ce qui fait qu'on va réussir. Moi, je suis persuadée que c'est l'empathie qui fait qu'on réussit et qui va de plus en plus faire que les choses vont changer dans le futur.
Où et comment tu te ressources, Alice ?
Alors, je ne sais pas si ça peut aider les auditeurs, mais moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Roquebrun, à côté de Béziers, et je ne manque pas une opportunité pour y aller. Et pourtant, j'ai toujours été une femme des villes, mais depuis que j'ai un enfant, mon truc, c'est, c'est la nature, quoi. C'est aller cueillir des champignons et des asperges au bord de la rivière et méditer devant une cascade, en fait. C'est très bateau. Hein.
Non, mais c'est revenir à des choses simples aussi.
Ouais.
Qui te sortent du tumulte dans lequel tu peux être au quotidien.
Ouais. Après, je crois que mes engagements et mon combat, ça me ressource énormément aussi.
Ouais. Tu trouves de l'énergie, en fait.
Il y a une forme d'adrénaline à laquelle je suis accro.
Ouais.
Je ne peux pas vivre sans l'adrénaline de mon engagement. Je ne peux pas dire de mon travail, parce que j'ai plein de formes d'engagement qui ne sont pas forcément rémunératrices. Mais ouais, alors, je ne sais pas si c'est du workaholisme, mais oui, j'ai une grosse addiction avec l'adrénaline et les sensations fortes que je peux ressentir à travers mon travail. C'est un moteur, c'est une manière de me ressourcer, c'est une manière de me sentir vivante. J'ai récemment une maladie qui s'appelle la myocardite, qui est une inflammation des muscles du cœur. J'ai perdu une partie des cellules de mon cœur, elles ne reviendront jamais, donc c'est toute ma vie. Ça a été causé par un virus qui s'est manifesté par un infarctus. À 34 ans, tu ne fais pas un infarctus, en fait. Donc, je me suis posé la question et je l'ai posé au médecin. Est-ce que c'est lié à l'adrénaline ? Est-ce que c'est lié à tout ça ? Parce que je suis malade maintenant. Et ils m'ont dit, alors non, il s'avère qu'il n'y a pas de lien. Et tant mieux. Et je me suis posé cette question parce qu'après avoir frôlé la mort, je veux me sentir vivante plus que jamais.
Et je me vois très, très mal me séparer de mon engagement, de mon activisme, parce que ça me nourrit énormément.
Et tu avais peur justement qu'ils te disent que c'est lié au stress et te demander de lever le pied de ce côté-là ?
Ils ne l'ont pas mentionné, donc on va dire que j'en ai pas eu peur.
Tant mieux.
Donc j'ai juste plus le droit de faire de sport.
Plus le droit de faire de sport pendant quelques temps.
Voilà.
Quelle est la question, Elise, qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace ?
Bah, c'est un peu une question que tu m'as posée, pourquoi tu t'engages ? Genre, d'où ça vient ? Parce que j'en parlais récemment avec le fondateur de Solidarité Sida. Je demandais pourquoi tu as fait Solidarité Sida ? Il me dit franchement. Il avait plein de réponses et en même temps pas de réponses. Et je me suis dit, c'est vrai, en fait. Il n'y a pas de réponse clé de d'où vient mon engagement. Alors, je me suis levée un matin et puis j'ai vu un reportage sur les Ouïghours et je me suis engagée. Je crois que c'est un peu une somme de tout, la réponse. Mais en fait, cette question commence à m'agacer parce que c'est comme si tu devais te justifier tout le temps d'avoir un pourquoi. Ce qui peut être intéressant quand tu réponds à des journalistes, à un podcast ou que tu écris une autobiographie comme je l'ai fait avec mon livre. Mais en vrai, en quoi c'est important ? Je m'engage. Les résultats sont là.
Plutôt de regarder l'action et les résultats de l'action.
Ouais.
La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux.
Comment tu fais pour être une mère, une femme, chef d'entreprise ? Oh là là, qu'est-ce que c'est tant mieux ? Je crois que les gens comprennent tout de suite que ce n'est pas une question qu'il faut me poser.
Ça tombe bien, on ne va pas te la poser. Et la question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi ?
De combien tu as besoin ?
Et alors ?
Ah bah 350 000 euros pour mon académie actuellement. Non, mais enfin, qui permettrait d'en apprendre plus sur moi, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on me la pose plus souvent parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que, comme je disais... Ça
reste tabou, ce sujet ?
L'argent reste très tabou en France, l'argent pour l'impact. Mmh. Et moi, je ne comprends pas qu'on soit dans un monde où ceux qui détruisent les ressources et la planète soient ceux qui récoltent le plus d'argent et ceux qui soutiennent des causes, soit ceux qui doivent se battre, écrire des dossiers interminables, négocier... Et parfois faire ce que j'ai fait aussi, d'impressionner, exagérer, voire bullshit, pour des sommes qui sont souvent très ridicules, en fait. Parce que quand tu regardes le changement de toutes les communautés des mouvements citoyens, parfois tu peux déplacer des montagnes avec presque rien. Alors imagine s'il y avait beaucoup plus de ressources. Et ce n'est pas juste à moi, en fait, cette question. C'est à tous les entrepreneurs sociaux et tous les activistes et tous les gens qui se battent pour la justice, dire, en fait, on a besoin de ressources, les gars.
On arrive vers la fin de ce podcast. Si toi, Alice, t'avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Moi, je veux poser un coup de projecteur pour l'ALAB, qui est une organisation féministe qui mobilise beaucoup des femmes musulmanes. Et ouais, c'est le coup de projecteur, il est sur elle. Parce que c'est une communauté hyper bienveillante qui malheureusement chie beaucoup à cause de préjugés et de stéréotypes et avec beaucoup de campagnes de haine sur les réseaux sociaux à leur encontre. Alors oui, quand on monte un projet, parfois on n'a pas forcément les bons mots, parfois on peut faire des erreurs, mais elle fait un travail extraordinaire et c'est envers elle que je pose le coup de projecteur.
Super, et bon, on ira voir ce que fait la Lab. Alice, un grand merci pour cet échange, plein de sincérité, d'authenticité, et à très vite.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.